Merci de cette présentation si bienveillante et si amusante. Enfin, j'espère qu'elle a été enregistrée, qu'un jour de déprime, je me la réécouterai. Ça me fera plaisir. Un grand merci à vous tous pour votre accueil. Merci pour votre invitation. Je sais que plusieurs personnes ont été impliquées. Cette invitation m'a réjoui. D'abord parce qu'elle me donne l'occasion de venir en Suisse, ce qui n'est pas si fréquent, même si c'est assez rapide, un peu trop rapide. Elle me donne l'occasion de vous rencontrer plus rapidement encore. Mais aussi parce que depuis que j'ai écrit ce petit livre auquel vous avez fait allusion, « Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien », j'ai été invité des dizaines de fois à un exercice dont j'avoue je me suis vite lassé, qui consiste à résumer un livre de 120 pages en une heure, à le refaire. Les gens me disent bah, « Viens, refaire le même livre ». J'aurais pu croire que c'était le cœur de votre invitation puisque le titre de la conférence reprend le titre du livre, mais quand on a échangé par mail, je vous ai proposé, en me disant, c'est l'Institut Philanthropos, donc un institut dans lequel on cherche à étudier, donc l'anthropologie, je crois qu'il y a pas mal de philosophie, eh bien, je vous ai proposé de faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire de développer une approche un peu plus conceptuelle qu'à l'ordinaire. Ça demandera de ma part assez peu d'efforts d'ailleurs, puisqu'il s'agit seulement d'expliciter l'échafaudage conceptuel qui sous-tend de toute façon ma démarche, qu'en général il convient de cacher au lecteur quand on veut faire un petit livre grand public, mais qui vous intéressera peut-être davantage. Alors, au demeurant, quand je vous en ai fait, Fabrice, la proposition, vous m'avez répondu en substance que cela changerait, heureusement, de la médiocrité du débat médiatique sur l'islam. Le jugement est sévère, parce que ce débat m'évoque souvent un ouvrage philosophique fondamental, et fondamental au sens propre, puisque c'est souvent par sa lecture qu'en classe terminale, en tout cas en France habituellement, en tout cas quand j'étais en terminale, ce qui commence à dater, c'est par sa lecture qu'on présente souvent la philosophie aux adolescents, à savoir le Banquet de Platon. Sans doute le fait-on lire à ces mêmes adolescents dans l'espoir qu'une discussion sur l'amour va susciter un peu l'intérêt des jeunes gens, que les hormones travaillent davantage que la métaphysique. Mais c'est aussi, je pense, je parle sous le contrôle de plusieurs professeurs de philosophie, on peut présenter la philosophie à travers cette œuvre, car c'est une remarquable leçon de méthode. Vous vous en souvenez, les discours sur l'amour se succèdent, les convives en faisant alternativement l'éloge ou la critique, avant que Socrate ne s'étonne de cette hâte que l'on déploie à porter des jugements sur une réalité qu'on n'a pas encore définie. En d'autres termes, remarque-t-il, avant de décider si l'amour est bon ou mauvais, encore faut-il se demander de quoi on parle. Et vous comprenez peut-être à présent pourquoi le débat sur l'islam, le débat médiatique sur l'islam, m'évoque si souvent le banquet. Nous sommes abreuvés de jugements positifs ou négatifs sur l'islam, religion de violence ou religion de tolérance, comme vous voudrez, mais nous manquons souvent d'éléments permettant de comprendre de quoi il s'agit. Il faut dire que cette dernière tâche est probablement plus ardue, pas simplement parce qu'elle réclame au préalable un petit peu de travail, des langues à apprendre, des textes complexes à analyser, des nuances qu'on accepte de poser, des doutes aussi avec lesquels il faut accepter de cohabiter longtemps. Mais surtout parce qu'il n'est pas certain que l'objet même de cette recherche existe. Parce qu'après tout, si on cherche des natures, comme Socrate nous y invite, est-on certain que l'islam est une nature ? Est-on certain que l'islam est une essence ? Peut-on seulement parler de l'islam en général ? Et ne devrait-on pas parler d'islam au pluriel ? La question ne se pose pas aux sociologues ou à l'historien. Pour ces observateurs du monde présent ou des mondes passés, le pluriel de l'islam s'impose comme une évidence. Entre un soufi du Maroc et un taliban afghan, entre un agnostique parisien qui tient quand même à jeûner au moins les premiers jours du Ramadan, et un théologien chiite de Qom, entre un soldat de la République égalitaire, anarchisante et iconoclaste des Karmates, une secte du Xe siècle qui a mis à sac la Mecque, qui a volé la pierre noire pendant quelques années, entre ce soldat et un philosophe andalou commentant Aristote un siècle plus tard. Et même entre un soufi du Maroc et un soufi du Sénégal, il y a bien des manières de vivre l'islam, qui sont reliées entre elles simplement par un petit noyau de références communes et un noyau plus petit encore de communes croyances. Ni les conceptions morales, ni les pratiques rituelles, encore moins les conceptions théologiques ou métaphysiques, ne sont communes à tous. Cela saute aux yeux, il n'y a pas besoin d'y insister avec vous aujourd'hui. La question devient, il me semble, plus intéressante quand on la pose non pas au sociologue ou à l'historien, mais qu'on la pose au théologien ou à l'historien de la théologie. Parce qu'alors, il ne s'agit pas d'une question de fait. La question de fait, elle est réglée, elle est évidente. La diversité de fait est une évidence, oui, que personne ne nie. Même ceux qui, les tenants d'un islam univoque, d'un islam essentiel, la reconnaissent, cette diversité. Ils la reconnaissent en disant, d'accord, il y a une diversité de musulmans, mais c'est parce qu'il y a des musulmans plus ou moins musulmans. Vous avez des bons musulmans, des mauvais musulmans, en fonction d'une essence de l'islam qu'on a définie au préalable, que cette essence d'ailleurs soit pacifique. Et là, on va vous dire, les terroristes sont de mauvais musulmans, parce que le véritable islam est pacifique. Ou au contraire, une essence intolérante ou guerrière. Et là, on va vous dire, les terroristes sont les vrais musulmans. La question importante n'est donc pas la question de fait, mais la question de droit. Existe-t-il un islam qui permette d'évaluer et de hiérarchiser l'islamité de pratiques si différentes? Il me semble qu'on fait fausse route quand on cherche à établir, comme le font couramment les hebdomadaires, si tel et tel élément est authentiquement musulman ou non, en cherchant en général le premier réflexe qu'on a, c'est pour savoir si quelque chose est musulman, que ce soit le voile, la barbe, la kalachnikov, ce que vous voulez, on va, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On ouvre le Coran. Le voile est-il dans le Coran? La guerre sainte est-elle dans le Coran? La tolérance est-elle dans le Coran? Et la méthode n'aboutit pas. La preuve, c'est que les journaux peuvent réemployer toujours le même système de semaine en semaine, ce qui prouve bien qu'on n'a jamais résolu la question. Pas parce qu'ils le font mal, mais parce que la méthode ne peut pas aboutir. Parce que d'abord, le Coran est un livre difficile, dont le sens de bien des mots nous échappe, qu'on ne comprend que par des traditions interprétatives. Vous savez, sur les 99 noms de Dieu que la tradition musulmane a extraits de la révélation coranique, il y en a dont le sens est très hypothétique et même certains dont le sens est à peu près inconnu. De la même façon, linguistiquement, on a des débats dans l'islamologie contemporaine sur le sens d'un certain nombre de mots dans le Coran, comme le mot « houri », la fameuse houri qu'on traduit souvent comme une vierge, vous savez, qui est censée attendre le guerrier au paradis. Alors certains disent « oui, mais ça pourrait signifier au final des grappes de raisin ». Et oui, alors ça pourrait être un petit peu gênant. Mais tout ça pour vous dire que le sens, si vous voulez dire « le véritable islam est dans le Coran, c'est facile », déjà, on ne comprend pas forcément le sens des mots. On est obligé, pour avoir le sens des mots, de le lire à travers une tradition d'interprétation. Et ces traditions diffèrent entre elles. Mettons que vous ne lisiez le Coran, non pas en arabe, mais en français. Donc déjà, vous vous inscrivez dans le sillage de quelqu'un qui a fait l'effort de le comprendre et de l'interpréter pour vous. Mais allons-y. Même à partir de là, après donc ces choix de sens, le livre reste déroutant. Si vous avez cherché à le lire, évidemment, il y a des versets très clairs dans le Coran. Mais dire que l'ensemble du livre est très clair, alors là, vraiment, je demande à discuter avec quelqu'un qui pourrait me dire le livre est très clair. C'est vraiment, ça n'existe pas, parce que la première lecture fait apparaître un grand nombre de contradictions. C'est d'ailleurs pour ça que les mêmes hebdomadaires, dont je vous parle depuis tout à l'heure, peuvent s'opposer en toute bonne foi, en vous disant, en citant des versets du Coran pour montrer que l'islam est tolérant ou que l'islam est intolérant. Parce qu'on trouve des choses différentes. Comment les départager, ces contradictions? Eh bien, c'est là qu'intervient la nécessité d'interpréter. Car penser qu'il suffit d'ouvrir le livre pour avoir la réponse, c'est admettre d'emblée un préjugé littéraliste qui n'est d'ailleurs pas partagé par la majorité des écoles musulmanes. le statut exorbitant, en théologie musulmane, du livre, parole de Dieu directement révélée, ne l'a jamais soustrait, dans l'histoire de l'islam, à la nécessité de lecture qui s'inscrivent dans des traditions d'interprétation, avec leurs méthodes et avec leurs autorités. Sans doute n'y a-t-il qu'un Coran. Mais le Coran ne parle pas. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ali, le gendre et cousin du prophète, le quatrième calife de l'islam. Ce sont les lecteurs qui le font parler. Comme du reste, tous les livres saints et à peu près tous les livres tout court. Et force est de constater que les voix des lecteurs sont diverses. Donc si on recherche l'essence de l'islam dans le Coran, l'enquête va rapidement tourner court. D'autant plus que, contrairement à une idée fréquemment répandue par les musulmans eux-mêmes, l'islam, ça n'est pas le Coran. Le livre saint occupe certes une place d'honneur absolument incomparable, mais dans la pratique de ce que les musulmans vivent, ce qui compte d'abord, ça n'est pas le Coran, ce sont les hadiths. Ces anecdotes ou ces propos rapportés du prophète Mohammed. Des centaines de milliers de textes, c'est un corpus colossal. Quelqu'un qui vous dira, oui, j'ai lu les hadiths, je demande à voir. Peut-être a-t-il lu certains recueils considérés comme canoniques. Mais la littérature de hadith est considérable. D'autant plus considérable d'ailleurs que les recueils ne sont pas les mêmes entre sunnites et chiites. C'est vraiment des centaines de milliers de textes. Assez différents, qui ont été élaborés et mis par écrit à peu près deux siècles après les anecdotes qu'elles entendent rapporter. Donc on a eu le temps d'en inventer en route, et là c'est pas moi qui dis qu'on en a inventé en route, c'est la tradition musulmane qui le sait très bien. Et une bonne partie du travail des sciences religieuses islamiques va être de trier, de hiérarchiser ces hadiths, de comprendre quel hadith est supérieur à un autre, quel hadith est faible, quel hadith a été purement et simplement inventé. Donc ça demande un travail d'interprétation évidemment considérable. Chercher la nature profonde de l'islam dans les hadiths, c'est se heurter à une tâche impossible et on retrouve une diversité à peu près irréductible. Alors où chercher l'essence de l'islam si ça n'est pas dans ses sources textuelles? Peut-être dans son origine historique. Est-ce que l'islam primitif serait la vérité de l'islam? Et là, on se heurte à deux obstacles que je pense chacun insurmontables. Premier obstacle, c'est que l'islam primitif historique, nous n'en savons presque rien. Nous avons beaucoup de documents qui datent de l'époque abbasside, c'est-à-dire donc deux siècles après le début de deux siècles après la vie de Mahomet, et dans un contexte pour l'essentiel qui a été construit, écrit dans un contexte idéologique précis qui est le début de l'Empire abbasside, qui cherche à organiser la religion musulmane avec des objectifs qui sont les objectifs d'un empire, enfin, ce qui est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire que c'est du mensonge, simplement l'historien est obligé de mettre un petit peu en doute des textes tardifs qui s'inscrivent dans un cadre idéologique. Et donc on a ce que l'histoire a fait de manière très critique dans les années 70, de manière plus nuancée aujourd'hui, c'est mettre en doute le récit d'histoire sainte islamique traditionnelle. Mais, fort heureusement d'ailleurs, l'histoire ne l'a pas remplacé par un autre récit. On a essentiellement des questionnements et très peu de sources. De plus, quand bien même on en saurait davantage, ce qui n'est pas le cas, on ne pourrait pas opposer aux musulmans d'aujourd'hui une essence primitive en leur disant « mais si, c'était vraiment ça au début, l'islam c'est ce que croient les musulmans ». Ça n'est pas ce que croyaient les musulmans au 7e siècle. On ne peut pas l'opposer comme si ça faisait de nous des autorités, des magistériels en islam. Donc, je ne vais pas chercher avec vous à passer au test d'islamité différents éléments ou différents courants de l'islam, car je pense que cela est vain. D'autant que la question doit être, il me semble, prise à un tout autre niveau, et que ce niveau est métaphysique. Le pape Benoît XVI l'avait d'ailleurs bien compris dans la fameuse conférence qu'il avait donnée il y a maintenant 11 ans à Ratisbonne. Vous connaissez peut-être ce texte, cette leçon magistrale sur la relation nécessaire qui unit la foi chrétienne et la rationalité. Depuis la rencontre antique entre le verbe chrétien et le logos grec. Et cette leçon admirable à beaucoup d'égards était introduite par une comparaison rapide, assez accessoire à vrai dire dans son propos, qui a beaucoup fait, enfin qui est peut-être le passage qui a été le plus retenu pour d'autres raisons, une comparaison rapide avec la doctrine de l'islam. Je ne reviens pas vraiment sur ces quelques lignes qui ont fait couler beaucoup d'encre, ni sur des faiblesses réelles, des sources évoquées, mais je ne retiens qu'une idée force. La conception de Dieu, disait Benoît XVI, informe l'ensemble des concepts et des pratiques d'une religion. Il est donc des conceptions sur la nature de Dieu qui peuvent provoquer, en conséquence, par exemple, le juridisme et la violence, pour prendre deux accusations fréquentes faites à l'islam. Ainsi, un agnosticisme pieux sur la nature de Dieu. Ce n'est pas l'agnosticisme non pieux. Un agnosticisme pieux, c'est une position qui consiste à dire on ne sait rien de Dieu, mais il existe quand même. Et on doit être de bons croyants, mais on ne peut pas en connaître la nature. Donc cet agnosticisme pieux qui déduit de son absolue transcendance, notre non moins absolue et radicale incapacité à le connaître, peut avoir des conséquences considérables. Si de Dieu on ne connaît pas la nature, si de Dieu on ne connaît alors que la volonté exprimée dans sa révélation par des livres saints, alors la foi ne peut être, comme chez saint Paul, une relation d'adhésion personnelle à Dieu, mais d'abord une mise en pratique concrète de cette volonté révélée. De plus, si Dieu est radicalement, aussi radicalement autre, qu'il n'est pas soumis à la logique ou à la nécessité d'être bon, alors sa volonté ne nous est pas accessible par la raison, puisqu'il n'est pas logique et qu'il n'est pas soumis à la morale. On ne peut connaître cette volonté qui est première, qui est l'élément essentiel, que par la révélation, et une révélation qu'il faudra comprendre de la manière la plus littérale possible. Et plus que la comprendre, il faudra y soumettre sa propre volonté. C'est que, venant d'un Dieu inconnaissable, que le logos grec n'atteint pas, cette volonté est nécessairement arbitraire. Cela veut dire que pour faire appliquer par d'autres que vous cette volonté, c'est le but aussi, hein, vous vous soumettez à la volonté de Dieu, vous voulez que les autres le fassent aussi, vous n'allez pas pouvoir les convaincre rationnellement puisqu'on est en train de parler d'une volonté qui est arbitraire. Donc vous allez avoir tendance à utiliser la violence pour les obliger à leur tour à se soumettre à cette volonté. La question. Donc vous voyez que là on a une métaphysique de la soumission qui est cohérente. La vraie question, c'est cette métaphysique de la soumission, est-elle l'islam ? Correspond-elle à l'islam ? Est-ce l'essence dogmatique de l'islam dont découleraient ensuite tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui ? Alors, pour y répondre, notons d'abord que ce pieux agnosticisme existe en islam, et ce depuis longtemps. C'est l'option théologique d'un mouvement qui apparaît très tôt en islam, qui est le mouvement kharijite, au 1er siècle, et qui n'était sans doute pas par hasard d'ailleurs un mouvement violent. Mais c'est un mouvement qui s'est aussi très vite marginalisé. D'emblée, un mouvement assez étroit, qui s'est très vite marginalisé pour quasiment disparaître. Mais cette option-là d'agnosticisme sur la nature de Dieu s'est exprimée de façon plus nuancée dans une autre école théologique, l'école hanbalite, tout au long de l'histoire de l'islam. Et c'est sans surprise la théologie hanbalite qui irrigue les mouvements wahhabites, salafistes, djihadistes que nous connaissons bien. Toutefois, il faut dans le même temps souligner que ce que j'appelle l'agnosticisme pieux n'est pas la seule approche que l'on trouve en islam. La rencontre de la foi musulmane avec le logos grec a eu lieu. Elle a eu lieu dès les premiers siècles de l'histoire de l'islam. Et elle a produit, cette rencontre, une réflexion riche, très diverse, s'efforçant de concilier l'absolue transcendance de Dieu, qui est une donnée à peu près commune à toutes les expressions de la foi musulmane, et l'inscription de ce Dieu dans un monde intelligible, un monde rationnel, un monde logique. Et je ne parle pas là simplement de quelques philosophes isolés et plus ou moins persécutés, selon l'image romantique produite en Occident qui aime trouver des Voltaire partout. Un des phénomènes majeurs de l'histoire intellectuelle de l'islam, après sa période classique, donc c'est un phénomène que je vais décrire là, qui va du 11e au 19e siècle, et dont les musulmans sont alors très conscients, c'est ce phénomène, c'est l'hybridation du discours théologique, ce qu'on appelle le kalam, avec les outils de la philosophie grecque. La recherche contemporaine parle même de contagion avicénienne, pour désigner la place prise par les concepts du philosophe persan Avicenne, l'auteur de la synthèse la plus aboutie du néoplatonisme arabe, dans l'ensemble de la pensée religieuse musulmane. Tout est envahi par Avicenne, par ses méthodes, par ses concepts. Cette rencontre avec le logos grec va d'ailleurs prendre des formes très diverses. C'est par exemple l'assimilation et l'arabisation donc d'un néoplatonisme teinté de logique d'Aristote. Et cette approche, distillée à travers plusieurs synthèses qui sont aussi marquées par la mystique, forme encore aujourd'hui le fond des manuels de formation des séminaires du clergé chiite en Iran. Quand on a fait de la philosophie médiévale occidentale, on est très à l'aise avec la métaphysique qui est développée dans les séminaires iraniens. On comprend bien de quoi il s'agit, les concepts ne sont pas rigoureusement les mêmes, mais on est très à l'aise, parce que tout ça est marqué par Avicenne. Avicenne que lisait aussi Thomas d'Aquin. Mais c'est aussi, de façon nettement plus critique, de cette rencontre que naîtra l'acharisme, l'école considérée pendant des siècles comme l'orthodoxie de l'islam sunnite, avec des auteurs comme Razali ou Razi. Et il est pour moi particulièrement notable que cette école, l'acharisme, ait su donner un cadre intellectuel qui légitime la diversité, y compris la diversité des interprétations de la loi divine. On a ainsi, vous le savez sans doute, dans l'islam sunnite classique, quatre écoles de droit qui se reconnaissent mutuellement comme légitimes, qui donnent des versions différentes, mais se reconnaissant comme légitimes, de la loi divine, la fameuse charia. La fameuse charia, on dit « Ah, quelle est la charia ?» Il y en a au moins quatre versions pour les sunnites. Cette diversité n'existe que parce que l'absolue transcendance divine a rencontré la rationalité grecque et a cherché à s'inscrire dans ce cadre. Alors n'y a-t-il de ce point de vue rien qui distingue le christianisme de l'islam ? Eh bien si. Si, parce que en christianisme, comme le soulignait justement Benoît XVI, la rencontre de la foi avec le logos grec a été totale et irréversible. Au IIe siècle, on peut encore voir s'opposer Justin, le philosophe converti, qui s'efforce de lire le dépôt de la foi avec les concepts de sa culture grecque. Et en face de lui, Tatien, auteur de l'Oratio ad Grecos, soucieux de préserver la foi chrétienne des contaminations conceptuelles du monde grec. Ça, on a ce paysage-là, et existe au IIe siècle, mais Tatien meurt isolé, hérétique, et il n'a pas de descendance, en tout cas intellectuelle. On ne connaît pas de théologie chrétienne non grecque. Le logos grec est devenu, sous des formes assez différentes d'ailleurs, un élément inséparable de la foi chrétienne, un élément essentiel, un élément qui fait partie de son essence. Il n'en va pas de même pour l'islam, où depuis des siècles, si vous voulez, Tatien et Justin se font face et s'efforcent de dire la foi musulmane dans des cadres différents, avec les conséquences que j'ai pu évoquer. Lequel des deux détient l'essence de l'islam ? Bien malin, qui peut le dire ? Une vieille habitude dans l'islamologie française, dont on est tous un peu héritiers, a consisté à privilégier les auteurs non grecs ou même plutôt anti-grecs, comme s'ils étaient plus authentiquement musulmans. ça va être Ibn Taymiyyah, qui est l'auteur sur lequel je fais ma thèse de doctorat, ou Ibn Hasm, un auteur aussi passionnant d'ailleurs que marginal, sur lequel Benoît XVI s'appuyait de façon peut-être imprudente pour définir l'ensemble de la doctrine musulmane. Il est vrai que ces auteurs-là sont pour nous plus exotiques, ils nous paraissent du coup plus authentiques. Mais je ne crois pas que nous puissions choisir. La vérité nous amène à reconnaître qu'historiquement, l'islam a été l'un et l'autre, et peut-être a été aussi le débat entre l'un et l'autre. Et la situation actuelle, qui vous intéresse sans doute davantage que le début du XIVe siècle à Damas, qui sert de cadre à ma thèse de doctorat, eh bien, si on s'intéresse à la situation actuelle, en mettant toutes les nuances que cette intervention ne me permet pas d'introduire, on peut dire que si Justin l'a nettement emporté dans le monde chiite, et la révolution iranienne, avec ses suites, nous prouve d'ailleurs que la violence religieuse peut avoir d'autres causes, du coup, que la question de la nature de Dieu. Bref, Tassien, lui, fait un retour en force dans le monde sunnite. Ce phénomène peut être, je crois, daté dans le monde arabe à la deuxième moitié du XIXe siècle. Quand le monde musulman est alors défié par un Occident qui affiche sa supériorité dans tous les domaines, militaires, techniques, scientifiques, il semble renoncer à relever le gant dans le domaine métaphysique. Plutôt que de s'appuyer sur la tradition musulmane et ses ressources pour défendre une vision du monde à opposer aux penseurs de l'Occident à l'époque, à opposer à Kant, à opposer à Auguste Comte, aux penseurs occidentaux qui paraissent si bien expliquer le monde alors, on se replie plutôt en bon ordre sur des positions plus faciles à défendre, et en particulier le droit musulman. Parce que là, on ne peut pas dire c'est vrai, c'est pas vrai, de l'extérieur. Non pas que le droit ait été précédemment une discipline négligée en islam. Loin de là, mais c'est à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle que va commencer à apparaître cette littérature vite envahissante qui explique aux musulmans comment ils doivent s'habiller, comment ils doivent se coiffer, comment ils doivent se nourrir. Ce domaine-là a le mérite d'être à l'abri des attaques intellectuelles de l'Occident. Ça n'est pas un objet de débat, puisque c'est la volonté de Dieu, arbitraire, incompréhensible. Le juridisme exacerbé, dont nous voyons des expressions à l'œuvre dans l'islam sunnite, est, je crois, la conséquence d'un renoncement métaphysique, mais qui s'inscrit dans l'histoire, dans un moment d'histoire, ça n'est pas dans l'essence même de l'islam. L'agnosticisme sur la nature de Dieu, qui se double donc d'une inflation de discours sur la volonté de Dieu, n'est pas tant un choix théologique qu'un renoncement, une expression de plus du malaise de la civilisation islamique face aux victoires de l'Occident moderne. Pendant ce temps, en Iran, dans le monde chiite, on multiplie aujourd'hui les colloques sur Mulla Sadra, qui est un grand penseur du XVIIe siècle, philosophe et théologien persan, qui est un peu la base de la pensée iranienne actuelle, et la pensée d'Heidegger. On adore les comparer. Alors, il y a eu des époques où c'était Sartre, aujourd'hui, c'est plus Heidegger. Bon. Dans le monde sunnite, le wahhabisme et le salafisme, qui feront leur percée dans les années 80, ont, eux, déjà un terrain alors bien préparé. Leur agnosticisme se présente facilement aux musulmans comme l'essence même de l'islam. Il n'en est pourtant qu'une expression contingente dont le succès actuel est le produit de l'histoire. Ce que je viens de vous développer là vous apparaît peut-être comme un petit peu théorique. C'est pourquoi je souhaite prendre avec vous, pour finir, enfin c'est pas encore fini, hein, mais vous savez, quand on donne un micro à un dominicain, on ne sait pas très bien quand ça se termine. Enfin, rassurez-vous, j'ai un avion demain matin à Genève à 9h05. Ça donne un cadre de toute façon où il faudra bien que je m'arrête de parler. Mais il y a un exemple qui me paraît en fait de nature à illustrer l'ensemble de ce que je vais essayer de vous dire jusqu'à présent et qui ne se trouve pas dans le petit livre dont on vous a parlé. Donc, si vous l'avez déjà lu, rassurez-vous, vous allez avoir des choses qui ne sont pas dedans. Et c'est la question du voile islamique. Alors, je vous sens déjà soupirer d'avance à l'idée d'entendre à nouveau parler de ce sujet dont on ne cesse de nous abreuver depuis au moins 1989, l'affaire du foulard de Creil. Enfin bon, 1989, j'avais 7 ans, donc j'ai l'impression de fait de n'avoir entendu parler que de ça depuis que je suis petit. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout lu sur la question ? Alors c'est vrai qu'on a déjà trop lu sur la question, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'on ait toujours lu ce qu'il fallait lire. Parce que comment aborde-t-on la question en général ? Alors, très souvent, on va faire ce que je décrivais tout à l'heure, se dire au fond, le voile, est-ce que c'est vraiment musulman ? Et donc, méthode de base, est-ce que le voile est dans le Coran ? C'est toujours cette illusion constante, tellement spontanée qu'elle nous semble naturelle. Il suffit d'ouvrir le Coran pour comprendre l'islam. Alors, il m'est déjà arrivé, parce que j'ai fait des conférences plusieurs fois, dans des milieux très différents. Je me souviens, oui, c'était pour des militaires français. C'est une femme qui intervient et qui me dit, mais d'accord, on a très bien compris, il faut interpréter, on ne peut pas lire littéralement. Mais sur une question simple comme le voile, quand même, c'est facile d'ouvrir le Coran et de savoir ce qu'il y a. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. Je vais essayer de vous le montrer. Et c'est d'ailleurs peut-être parce que ce n'est pas du tout si simple que nous ne ressortons jamais tout à fait convaincus des encadrés, vous savez, dans les magazines, que dit le Coran sur le voile. Qui sont pourtant ceux sur... On se précipite en général sur cet encadré-là, parce qu'on se dit, je vais enfin savoir, et on ressort sur sa fin. Alors, que dit le Coran sur le voile ? Non, mais vous allez comprendre pourquoi c'est difficile de répondre. Parce que déjà, dès qu'on s'attache au mot, on est perdu. En arabe, depuis le début du Moyen-Âge, pour désigner le voile, on parle de hijab. De façon religieuse, c'est le terme qu'on emploie. Alors, vous allez prendre un bon moteur de recherche et vous allez chercher hijab dans le Coran. Et là, vous allez voir qu'il apparaît dans le Coran. Mais il ne signifie manifestement pas voile. La seule occurrence où il apparaît dans un sens qui a quelque chose à voir avec les femmes, c'est dans verset 53 de la sourate 33, si vous voulez vérifier. Et là, le mot désigne manifestement un rideau derrière lequel les femmes du prophète, et elles seules, doivent rester cachées quand le prophète a de la visite. Pour autant, si le Coran n'utilise pas le mot hijab, on ne peut pas dire pour autant qu'il se désintéresse tout à fait de la question, en particulier dans deux passages. Le verset 31 de la sourate An-Nur, la sourate 24, je vous le cite, nous dit « Dis aux croyantes, c'est Dieu qui parle, hein, qui s'adresse au prophète, dis aux croyantes de baisser leur regard, on a parlé des croyants juste avant, et là maintenant c'est pour les croyantes, de baisser leur regard, d'être chastes, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît. » Qu'elles rabattent leur voile sur leur gorge, qu'elles montrent seulement leurs atours à leurs époux. Puis ensuite, on a toute une liste assez longue que je ne vous fais pas, de tous les gens à qui elles peuvent se montrer, elles peuvent montrer leurs atours. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais elles peuvent montrer leurs atours à tout un tas de gens qui sont globalement ceux avec qui leurs enfants ou leurs frères, enfin, des gens avec qui les relations sexuelles sont impossibles. Et le verset conclut, qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds pour montrer les atours qu'elles cachent. Alors, vous voyez, ça n'est pas clair du tout, contrairement à ce qu'on dit souvent. Les termes clés eux-mêmes sont obscurs. Ils ont donné lieu, dans l'histoire de l'islam, à des explications aussi nombreuses que contradictoires. D'abord, le terme qui désigne le voile. Ici, c'est « khumur », pluriel de « khimar ». Alors, on voit bien qu'il s'agit de cacher quelque chose, pour rabattre ce khimar. Très bien. Quelle est à quoi ça ressemble ? Eh bien, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on n'a malheureusement pas conservé les catalogues de la redoute de l'époque. Et donc, on a des descriptions qui datent de 3 siècles après. Mais on ne sait absolument pas ce que, dans l'Arabie du 7e siècle, ça désigne. On n'a pas la forme, on ne sait pas. C'est pas du coup ce que c'est censé cacher. Parce que vous avez entendu que ce que la femme doit cacher, ce sont ses atours. C'est un mot français qui dit pas grand-chose quand même, mais qui est fort bien choisi. Et la plupart des traductions, qu'elles soient d'ailleurs faites par des musulmans ou par des universitaires non musulmans, emploient ce mot-là. J'avais fait une petite étude comparative. parce que ce mot-là a l'avantage de n'à peu près rien dire. Le mot arabe qui est derrière, zina, on ne sait pas ce qu'il désigne. Alors on est un peu embêté. On a avec un morceau de tissu, suppose-t-on, dont on sait pas dont on ne connaît pas la forme, on doit cacher quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quand même un peu gênant. D'autant qu'on a quand même un indice. Alors la plupart du temps, on va dire, oui, c'est les attributs érotiques d'une manière ou d'une autre. Alors est-ce qu'on fait entrer les cheveux dedans? On ne sait pas très bien. D'autant que le seul indice que nous donne le verset pour comprendre ce que c'est que la zina, c'est à la fin, qu'elle ne frappe pas le sol de leurs pieds pour montrer la zina qu'elle cache. Alors bon, si c'est les cheveux, je sais bien qu'on peut montrer ses cheveux en tapant du pied. Enfin, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué quand même comme affaire. Donc, on va peut-être essayer d'aller voir un second verset qui va tout nous expliquer. Le verset 59 de la sourate 33, où Dieu s'adresse à nouveau au prophète et lui dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de serrer sur elles leur voile. Ce sera le meilleur moyen pour qu'elles soient reconnues et qu'elles ne soient plus offensées. » Alors là, on a un autre mot pour dire voile. Donc c'est encore au pluriel, jalabib, qui est le pluriel de gilbab. À quoi ressemble un gilbab à l'époque du prophète? Mystère et boule de gomme. Voyez qu'on a un principe de séparation dont on n'est pas tout à fait certain qu'il corresponde à un commandement vestimentaire. C'est en tout cas ce que suggèrent les commentaires médiévaux qui ne parlent quasiment jamais du voile. Ça ne les intéresse pas. Si vous prenez un juriste hanbalite, donc a priori de l'école la plus rigoriste et la plus traditionnelle, un juriste qui n'est pas vraiment un rigolo, qui s'appelle Ibn al-Jawzi, qui est créé au XIIe siècle, et qui a consacré 110 chapitres, 110 paragraphes, disons, aux obligations qui s'appliquent spécifiquement aux femmes. Et dans ces obligations, les questions esthétiques ne sont pas absentes. Il considère comme interdit, par exemple, les tatouages ou les cheveux postiches. Eh bien, dans ces 110 paragraphes, il n'est jamais question du voile. Parce qu'il est contre le voile, parce qu'il est une espèce de libertaire, pas du tout, mais sans doute parce que, d'une part, parce que de son temps, la société se charge de faire respecter un interdit culturel très fort, interdit qu'il approuve sans doute, mais auquel il ne voit pas de fondement particulièrement religieux, et d'autre part, parce que pour lui, l'idéal, donc mesdames, ne vous emballez pas non plus dans un enthousiasme autour de Ibn al-Jawzi, son idéal pour la femme, ça n'est pas d'être voilé, c'est d'être cloîtré. Il insiste longuement sur la supériorité pour la femme de rester chez soi. Donc vous voyez que le voile n'est pas, contrairement à ce qu'on lit souvent, un retour au Moyen-Âge. Si les écrits sur le voile se multiplient à partir du XXe siècle, et quasiment pas avant, c'est parce que précédemment, le hijab était considéré comme un idéal de séparation entre les hommes et les femmes. Une séparation que la modernité remet en question avec l'éducation des filles et leur accès à la vie publique. Longtemps, cette séparation, ce principe de séparation, passait entre la vie privée, entre l'espace public, pardon, qui était réservé aux hommes, et l'espace privé, contrôlé plutôt par les femmes. Alors, que les femmes sortent de chez elles a évidemment toujours existé. Mais en général, dans les traités théoriques, c'est abordé comme une exception à réduire au minimum. À présent, je parle du début du XXe siècle, que les femmes investissent l'espace public, comment maintenir la séparation? Certains proposent de renvoyer les femmes chez elles, d'où elles n'auraient jamais dû sortir. Et d'autres adaptent l'idéal traditionnel de séparation à ces conditions nouvelles, et en disant on peut continuer à vivre cette séparation. La frontière doit demeurer, qui sépare les hommes et les femmes, ou qui les distingue peut-être, mais elle ne passe plus entre espace public et espace privé. Elle passe désormais à l'intérieur de l'espace public, par des voiles ou par des aménagements horaires, comme pour éviter la mixité dans les piscines, par exemple. Vous voyez, ce sont des manières d'essayer de maintenir une forme de séparation, alors même que les femmes sont dans l'espace public. Le voile n'est donc pas du tout une application littérale de la loi musulmane. C'est une interprétation d'un univers coranique qui fait de cette séparation un élément sacré. Mais ça n'est pas la seule interprétation possible. Puisque pendant des siècles, ça n'était pas du tout l'interprétation dominante, loin de là. Mais on peut donc, vous avez toute une gamme de mise en pratique de cette séparation qui peut aller de la claustration à simplement la pudeur. Et tous ces éléments peuvent être tenus sincèrement par des musulmans sincères. Et dans le voile même, vous avez une grande diversité. On le sait très bien. Tous les voiles ne se ressemblent pas. On ne peut pas simplement dire... Vous voyez, je n'aime pas quand on dit « Bon, les musulmans font ça parce que c'est écrit. » Vous voyez bien qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit. C'est toujours plus complexe. Parce que l'herméneutique, pour le dire de façon plus savante, l'herméneutique suppose toujours des choix éthiques. Dans toute vie de croyant, on interprète et donc on choisit en conscience. C'est vrai pour la violence, c'est vrai pour le voile, mais c'est vrai pour tout. L'explication de l'action des gens par le commandement est trop courte. Jamais un commandement n'a aboli le choix de celui qui choisit de l'accomplir. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Il était temps, me direz-vous. Puisque l'explication mécanique, c'est écrit donc « elle se voile », ne tient pas, alors comment expliquer l'engouement pour le voile, notamment chez les jeunes musulmans de France? Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse. Je sais qu'en France, on a un certain nombre d'enquêtes qui montrent que ça peut représenter un signe de ralliement. Pourquoi l'insistance, depuis quelques décennies, de la littérature musulmane pieuse sur cette question qui nous apparaît quand même, quand on n'est pas musulman, au mieux comme tout à fait secondaire? Parce que, vous voyez que si on se souvient que, puisque les femmes, il y a encore deux générations, n'entraient pas en cheveux dans une église, sur le fondement d'ailleurs d'un passage de saint Paul, personne n'a jamais prétendu que c'était là le cœur de la foi chrétienne. Or, en rupture d'ailleurs avec toute la tradition islamique, certains prédicateurs prétendent aujourd'hui qu'une musulmane non voilée est de ce fait une incroyante, qu'elle a quitté l'islam, qu'elle ne peut plus être appelée croyante et qu'elle est donc vouée à l'enfer. Il y a là-dessus un parallèle d'ailleurs avec les interdits alimentaires. Alors si on les rapporte à l'interdiction chrétienne de manger de la viande le vendredi, on ne voit vraiment pas pourquoi les musulmans en font tout un plat, si je puis dire. Et on a envie de leur dire, mais concentrez-vous sur l'essentiel. Pourquoi allez-vous parler de vos histoires de nourriture? Et on a peine à prendre au sérieux les auteurs qui disent que l'essentiel, précisément, eh bien, c'est le voile et c'est la viande halal. Or, je crois que nous aurions précisément besoin de les prendre au sérieux, parce que cela nous dit beaucoup. La disparition des controverses théologiques que j'évoquais, des grandes controverses théologiques métaphysiques, sur les attributs divins, sur la nature du Coran, au profit de discussions sur ces points pratiques, est probablement un signe de la crise qui traverse aujourd'hui le monde musulman. L'incapacité de l'islam traditionnel à faire le lien entre sa tradition et le monde actuel. Et, corrélatif à ça, le désintérêt des salafistes, qui sont un courant absolument moderne, leur désintérêt pour la doctrine au profit de la seule pratique. Et là-dessus, le voile est une question aussi centrale qu'incomprise, si on le regarde du point de vue de la théologie. Alors je comprends que la théologie ne soit pas le seul point de vue qui vaille. Il y a certainement beaucoup à en dire du voile, du point de vue du droit des femmes, du point de vue des pressions sociales dans tel et tel milieu, du point de vue des revendications et des replis identitaires. Mais ces discours-là, nous les entendons souvent. Et ils ne nous disent jamais pourquoi des femmes peuvent choisir de se voiler. Je ne dis pas qu'elles choisissent toutes, mais le fait est que ça arrive. Et ça ne l'explique pas, sauf à les estimer victimes du syndrome de Stockholm, et donc de les considérer comme globalement irresponsables et incapables de parler de ce qu'elles pensent. J'aimerais donc faire droit aussi, à côté de ces autres discours, à une approche proprement théologique, qui nous renvoie à un débat très ancien sur le sens de la foi en islam. La foi et les œuvres. En christianisme, les deux notions ont été distinguées dès l'origine, même séparées très nettement depuis saint Paul. Et on est donc habitué en Occident, même quand on est pas croyant, même quand on se considère comme tout à fait non religieux, on est habitué à considérer que le cœur de la foi, le vrai sens de la foi, c'est l'adhésion intérieure, la croyance en Dieu, et peut-être même la relation intime avec lui. À partir de là, la pratique concrète est toujours considérée comme secondaire, car pour Paul, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, on le sait. Les catholiques non pratiquants, en ce sens, sont extrêmement chrétiens. C'est-à-dire que ça n'est pensable qu'à partir de la distinction que Paul fait entre la foi et les œuvres. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est formidable, catholique non pratiquant. Mais voyez, l'outillage intellectuel, pour, ne serait-ce que pour inventer cette notion-là, nous vient de saint Paul en droite ligne. Il se considère comme chrétien par l'adhésion personnelle, pas par la pratique rituelle. Ce qui est une évidence en monde chrétien, cette distinction de la foi et des œuvres, ne l'est pas du tout en islam, dont l'histoire a été au contraire traversée de débats très différents. Dans les premiers temps de l'islam, un groupe que j'évoquais tout à l'heure, les Kharijites, considère au contraire que seules les actions comptent. Et c'est lié à leur agnosticisme que j'évoquais. Puisque si on ne connaît rien de Dieu, rien de sa nature et qu'on ne connaît que sa volonté, alors être croyant, c'est obéir à la volonté de Dieu. Ce n'est pas entretenir je ne sais quelle relation avec un Dieu inconnaissable. Et donc, désobéir, commettre un péché, c'est ne plus être croyant. C'est être apostat, c'est être digne de mort et d'enfer. Une position à l'exigence un petit peu extrême, à peu près intenable, qui sera poursuivie de manière beaucoup plus modérée, je vous le disais, par l'école hanbalite, une école très traditionnaliste, hostile aux différentes formes de rationalisme, et pour elle, le pécheur, vous avez commis un péché, vous ne cessez pas d'être croyant. Ça, c'était la position des Kharijites. Puisque vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'avez plus la foi. Les Hanbalites vont dire non, quand même, vous n'êtes pas immédiatement exclu de la communauté, mais le couple foi et œuvre va rester inséparable, parce que de Dieu, pour cette école, nous ne connaissons donc rien d'autre que sa volonté. Dans ces conditions, que signifie aimer Dieu si vous ne faites pas ce qu'il dit ? Qui aimez-vous, puisque sa nature vous est inconnue et que vous n'avez que ses commandements ? Ou bien vous aimez la volonté de Dieu et vous l'appliquez, ou bien vous n'aimez rien du tout. Et dans ces conditions, qu'est-ce qu'avoir la foi ? Avoir la foi, c'est appliquer les commandements de Dieu. Et comment, et ça c'est la grande question, comment les appliquer en permanence ? Parce que vous pouvez, par moment, faire quelque chose que la loi islamique recommande. Très bien, là, vous vous sentez croyant. Et quand vous dormez, comment rester croyant ? Et quand vous rêvassez, comment rester croyant ? Alors, il y a des solutions, rassurez-vous. Pour vous, messieurs, vous pouvez porter la barbe. Non, mais cette insistance sur la barbe, qui est d'ailleurs revenue en force, c'est évidemment lié à ça. C'est une manière d'inscrire la loi de Dieu dans sa propre chair. C'est une manière d'aimer Dieu, d'aimer la loi de Dieu. Puisqu'on n'a pas de relation à Dieu, bah, il faut bien voir ça. Et pour vous, mesdames, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Eh bien, vous allez pouvoir vous voiler, justement. Le voile est une manière, là aussi, d'inscrire ces commandements de Dieu dans sa propre vie. Ça n'est pas pour autant, cette position qui est celle du hanbalisme, n'est pas la seule position théologique dans l'histoire de l'islam. On a, dans les premiers siècles, une école qui a elle aussi disparu, qui est le mourgisme, qui considère que on ne sait pas très bien si quelqu'un est pécheur, pas pécheur, puisque, au fond, tout ça se règle entre Dieu et lui. Cette école va disparaître, et là, elle était aussi continuer en un sens par une école plus conciliatrice, plus modérée, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, l'acharisme, qui va être considérée comme l'orthodoxie de l'islam jusqu'à sa mise en concurrence par le salafisme récemment. Pour l'acharisme, l'acte de foi n'est pas apparent. Il va s'exprimer par la profession de foi, mais il ne se confond pas avec la profession de foi. La foi persiste tant que vous avez en vous un atome originel de foi. Ce noyau peut grandir, il peut rapetisser, mais les actes ne sont que le signe extérieur d'une réalité qui est d'abord intérieure. Et les actes, d'ailleurs, ne disent pas tout, ils peuvent nous tromper. Il est donc impossible de juger de la foi d'un autre à partir de l'extérieur. Il est même impossible de juger de sa propre foi. La formule classique, c'est « je suis croyant, incha'Allah, je suis croyant si Dieu le veut ». J'en suis pas tout à fait sûr. Alors, le voile, dans ce cadre-là, le voile comme acte de foi peut trouver sa place, mais il n'occupera jamais la même place centrale que dans la théologie hanbalite. Or, je vous le disais, l'acharisme a été longtemps l'orthodoxie. Et vous comprenez peut-être pourquoi le voile prend autant d'importance dans les débats actuels, quand vous savez que le hanbalisme est la théologie de référence du salafisme qui s'impose comme un concurrent sérieux au statut de véritable orthodoxie de l'islam. Vous voyez donc que soulever le voile islamique, c'est découvrir des enjeux assez différents. Cette démarche ne dit pas ce qu'il faut en penser, elle n'est qu'un préalable. Cela n'invalide pas les positions féministes, républicaines, antidiscrimination qu'on peut avoir par ailleurs. Mais je crois que c'est un préalable nécessaire si l'on veut savoir de quoi on parle, si on veut prendre les musulmans au sérieux et peut-être élever le niveau général du débat. Alors pour conclure, que faire dans cette situation ? Je n'ai pas la faiblesse de croire que l'islamologue va résoudre les problèmes du monde. Même dans son domaine, son rôle a des limites. Il ne lui revient pas de dire quel est le véritable islam, mais ce qu'il peut faire n'est pas, j'espère, pour autant tout à fait inutile. Résister à la paresse qui fait la courte échelle à des théologies pauvres et dangereuses, refuser d'accorder au salafisme, école récente, l'honneur d'incarner l'essence de l'islam, en un mot, rappeler que le réel est toujours plus beau, plus riche, plus profond que l'idéologie. Je vous remercie de votre attention.